They're still fixing up the sound, so I can say whatever I like right now. Welcome to Laval. I will ask you in a moment, Sylvie, perhaps to welcome everyone, if you would. Sylvie Delorme, Madame Président, le Clerc Supercomité de Bibliothèque. We are very pleased, I think, to be able to host this at McGill today. It has been a triumph of organization and technology that everything is currently working. We trust it will continue, and I would like to thank all my colleagues at McGill who have organized this at very short notice. So thank you very much to all my colleagues at McGill. Thank you to all of you for coming. We have representatives from Université de Montréal and Sherbrooke here present, Richard Dumont, Sylvie. It's lovely to see you both here and all our other colleagues. And we have Laval beautifully showing in our screen here. You probably can't see yourself. So, Sylvie, I'll just hand over to you now for a brief welcome. Merci.
Alors, merci à tous d'être présents. Comme vous voyez ici, on est assez nombreux. On a des gens de l'UQ. Est-ce qu'on a des gens de l'UQTR? Non. Le reste de la population, ce sont tous des gens de Laval. Alors, des gens des technologies chez nous, des gens du catalogue, du traitement documentaire, mais aussi de la diffusion de chacune des bibliothèques qui sont présentes aujourd'hui. Alors, je pense que tout le monde est bien intéressé par cette présentation. Alors, j'aimerais également remercier chez nous Joanne Riverdi, qui est mon assistante, et O'Neill Agrippa aussi, parce que tout le monde s'est retourné un petit peu sur un dissène, comme on dit chez nous, pour organiser un petit peu tout ça. Alors, je pense qu'on attend impatiemment cette conférence. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à nos conférenciers. Alors, merci Jane et merci Daniel d'être présent avec nous ce matin.
Merci. We are webcasting this as well, so we have colleagues participating from other parts of Quebec through the Université de Québec system. So welcome to those who are on the web. We are also will be archiving it so we can look at it later as well. There is also available copies of the present PowerPoint presentation. So I think we've covered mostly everything. Well, it is my very great pleasure to introduce Jennifer Gatenby. Daniel Boivin, thank you for coming and for assisting in this organization. Daniel is known to us all. Jennifer is not. I call her Jan because we have known each other since we were 22. And both of us are a lot older than that now, you think? Jan is an Australian as well and comes from that tiny island called Tasmania, which most people leave completely off the map of Australia. It makes people who live in Tasmania, I think, probably more tenacious as a result. But Jan has had a long history of work in the automation industry, library automation, working for various companies, too numerous to mention really, who in turn got bought out by other people. So a lot of work in the planning behind that. And Jan now works for OCLC, for the European component, and I'm going to get her to describe what that is because it is different from OCLC as we know it in North America. And I saw Jan at IFLA in Milan, and it seemed like a good opportunity to explore some of the issues that we've been dealing with here in Quebec in particular, because that European context is very important for us and can, I think, help us think through the issues here. Did everyone understand what I said? I speak slow English now. And I would like you all to speak slow French, and stop being Quebecois, but I live in hope. Welcome to again, and I will pass over to Jan now. Merci beaucoup.
Ok, merci. Merci beaucoup pour l'invitation et pour cette occasion. J'espère que vous pouvez me comprendre mon accent. C'est un mélange d'australien, un accent un peu français, mais j'ai fait des fautes comme toutes les anglophones. Janine a dit, je travaille avec OCLC et je suis basée à Leyde, aux Pays-Bas. Et là-bas, je travaille maintenant avec la liaison entre les Pays-Bas et le siège, ici en Amérique, aux États-Unis. Et j'ai commencé en France. Donc, je parle français beaucoup plus et beaucoup mieux que je parle néerlandais. Donc, Leyde, c'est le centre de OCLC en Europe. Et au début, c'était une association qui est semblant à OCLC, c'est-à-dire que c'était le catalogue collectif du Pays-Bas. Et le logiciel qu'eux, ils ont fait pour gérer le catalogue collectif s'appelle CBS, Centrale Bibliothèque Système. Et ça, c'est mon néerlandais. Ce système est diffusé par les partenaires qui ont le droit de la source du logiciel. Et c'est utilisé par plusieurs réseaux en Allemagne, en Australie, en Suisse, en France, avec le SUDOC, que je pense que vous connaissez, et en Angleterre aussi, avec un réseau pour les bibliothèques municipales. Donc, c'est à ce contexte que je vais vous parler maintenant de deux façons. J'ai deux présentations qui sont assez distinctes. La première, c'est une présentation sur le rôle des régions dans le monde. Et parce que moi, j'ai une très bonne impression de cette rôle qui est très importante. Et deuxièmement, Dublin, Ohio, je fais beaucoup de choses avec les données. Et donc, je peux parler en plus de détails sur ce qu'on fait en ce moment sur d'avoir les systèmes multilingues. Et donc, c'est un chantier en ce moment. On a beaucoup de choses qui ne sont pas encore regroupées. Donc, je peux commencer maintenant. Vous pouvez tous m'entendre? Comprendre? Oui? Bon, c'est bon. Merci. Donc, est-ce que ça marche maintenant? Voilà. Voilà.
OK. You can use the arrows.
For people here to see the presentation.
For here.
Non, ça ne marche pas. C'est pas grave. Vous pouvez voir la présentation maintenant? Bon. Ok, je commence. Ok, je commence avec les rôles traditionnels des catalogues collectifs. Ils ont été créés dans les années 60 environ pour le catalogage par copie. Nos disques sont fournis des sources nationales comme BANQ, LAC, BNF, Library of Congress, machin. Il y a les notices qui sont rajoutées par les membres qui augmentent les sources nationales. Et la plupart sont monographiques avec seulement une notice pour la publication en série, mais pas pour les fascicules. C'était les services commerciaux externes qui gèrent le catalogage des fascicules. Et il y avait deux dérivations de ce modèle. Premièrement, c'est le prêt entre bibliothèques. C'est prêt entre bibliothèques en France. Et c'était une dérivation qui était assez chère, c'était pas pour tous les utilisateurs, seulement pour les privilégiés. Et ça a commencé aussi de faire la collection collective, de faire la coopération en collection. C'était une autre dérivation. C'était pas la motivation, c'était le catalogage et pour avoir les économies. Et l'efficacité du catalogage reste encore très importante. On peut voir, il y avait un rapport cette année de Research Information Network en Angleterre qui pense que c'est toujours un problème, ainsi que le groupe de travail de Library of Congress. Mais je n'en parle pas. Donc, plus récemment, on a évolué et on a commencé des nouveaux services. Premièrement, il y a les services pour les utilisateurs. Et c'était un service de recherche. Et avant le Google, pas avant Internet, mais avant Google, vers 2000, il y avait le catalogue de la bibliothèque, et c'est tout. Et tous les modèles ont créé des très belles opaques, et l'idée, c'est d'avoir une vitrine pour la bibliothèque que les utilisateurs utilisent en première. Mais c'est plus le cas. Et un rapport en 2005 d'OCLC qui s'appelle Perceptions of Libraries. Je ne sais pas si c'est traduit, je ne pense pas, mais ce rapport, c'est très connu et c'est gratuit. On peut décharger du site OCLC et on peut demander une copie physique. Et ce rapport, on a découvert ce qu'on a déjà su. Et c'est que seulement 2% utilisent le catalogue en première. Et 84, on dit 80 ici ou... Oh, bon. J'habite tout près de la Suisse et c'est Octante. Et commence avec un moteur de recherche. Ce n'était pas une surprise, mais ça a scellé le fait. Et donc, on a essayé d'avoir les catalogues de plus envergure, où on peut découvrir non seulement ce que se trouve dans une seule bibliothèque. Et ici sont quelques exemples des catalogues. Et tout récemment, le catalogue de Crépuc, bien sûr. Et il y a maintenant, c'est une bonne chose, il y avait plusieurs pistes pour découvrir la même chose. Par exemple, j'ai pris cet exemple, c'est The Ships of Abel Tasman. Voilà, c'est où je, comme Janine m'a dit, je suis tasmanienne, mais c'était l'explorateur Abel Tasman. Il est bien néerlandais. Donc, chaque fois que je cherche dans les catalogues là-bas, je... Abel Tasman, c'est bon. Donc, les Shepherd van Abel Tasman, ça c'est dans le Royal Library, Königlar. It's the Royal Library, c'est la Bibliothèque Nationale. Donc, ça c'est le interface. C'est aussi dans le catalogue national. C'est aussi dans TEL qui regroupe toutes les 44 bibliothèques nationales de l'Europe. Et c'est en Wildcat. Et c'est en Google Books. Donc, et c'est en Google Books parce que l'éditeur a fourni le livre en forme numérisée à Google. Il a voulu que Google fasse ça. Et Google peut, il peut afficher les échantillons, les petites pièces. Et si on veut avoir plus, il y a un lien direct avec Amazon.com ainsi qu'avec Wildcat. Donc, tout ce Google Books est lié avec Wildcat dans cette façon. Et au niveau mondial, Wildcat, en 2004, on a complètement changé la politique. Maintenant, c'est un fait, c'est très connu, mais à l'époque, c'était une décision très courageuse d'aller à l'extérieur et de donner nos notices pour qu'ils puissent les indexer et les accéder. Donc, on a commencé avec Google, Yahoo et Microsoft, et on a rajouté les librairies en ligne et les antiquaires et beaucoup d'autres choses. On a un petit groupe de 5 ou 6 personnes qui basées sur Dublin, Ohio, qui sont à la recherche toujours des nouveaux partenaires pour Wildcat. Et l'exposition globale de Wildcat, c'est notre tentative de mettre les bibliothèques dans le monde du web pour aller chercher les utilisateurs et de ne pas demander qu'ils nous cherchent. Donc maintenant, il y a 150 millions de notices. Il y a 1 billion... 1 milliard. Voilà. Cette chiffre-là. D'exemplaires. Et ils méritent maintenant le nom Wildcat, puisque les données sont de tous les coins. Et c'est intéressant maintenant les données en langue, les ressources en langue anglaise sont moins de 50% maintenant. Donc c'est un fait. Il y a environ 3 millions de, par mois d'affichage de la notice complète et environ 1 million de visites en provenance de Google Book Search par mois. Donc, on commence d'avoir une échelle assez importante. Et pourtant, c'est pas possible d'avoir ce modèle sans le niveau des régions. Ce sont les régions qui sont en ce moment en train de charger vers WildCat. Et c'est à cause des catalogues collectifs, des bibliothèques nationales et tout ça qu'on a réussi d'avoir une source centrale pour les bibliothèques mondiales. Et ce sont les réseaux qui font la liaison à 20 à toutes les bibliothèques avec les dépôts, des ressources électroniques et avec WildCat. Donc c'est un rôle que je vais élaborer pendant cette présentation. Nous avons à WildCat un registre d'institutions qui est à la base, qui on a WildCat et on a le registre, les deux fonctionnent ensemble. Et le registre a les liens, les URL dedans qui permet de passer de WildCat directement sur la même notice dans les autres catalogues. Et il y a aussi des liens vers les résolveurs de liens pour les articles pour électronique et toutes les ressources électroniques. Et il y a les autres informations pour passer vers le service de référence et pour avoir les politiques pour de service si on fait les prêts internationaux ou pas, et comme ça, les politiques comme ça. Et donc, puisqu'on a une ressource mondiale pour les ressources, et il faut aussi avoir une ressource assez importante pour les institutions. Et le registre d'institutions, c'est complètement gratuit. On peut faire un enregistrement dans le registre et sans avoir aucune relation avec OCLC des services des produits. Donc, c'est un exemple. Je ne pense pas que c'est assez large, mais ça, c'est la notice dans le registre qui est utilisée par WildCat pour passer directement à la même notice dans une bibliothèque. Et parallèlement, il y a l'exemple ça c'est l'Université libre de Bruxelles. On peut passer de cet enregistrement dans le registre. Et WildCat utilise ça pour passer vers le résolveur et directement sur l'affichage du ressource électronique. Autre service pour les utilisateurs, il y a des demandes de fourniture. Donc, c'est direct aux Pays-Bas. Tous les utilisateurs dans toutes les bibliothèques universitaires, eux, ils ont un compte et ils peuvent lancer les demandes directement. Et ils sont passés par le service PAB de la université. En Allemagne, c'est encore mieux, puisque là, la livraison est à domicile. Tandis qu'aux Pays-Bas, c'est vers la bibliothèque de l'utilisateur. Libraries Australia a la même chose. Il y a le service Copies Direct avec livraison directement à domicile. Mais en Allemagne, ce sont les prêts aussi, ce n'est pas uniquement les copies. Il y a le service des listes qui évolue. Et je vous donne ici quelques exemples. En Europe, il y a BIB6 en Norvège, Bibliothèque DK, c'est en Danemark, et Esther, c'est en Estonie. Donc, il y a les services des listes assez évolués. Donc, c'est pour STI. On a STI, c'est bon? C'est SDI. STI. Bon. Et autre chose qui sont en train d'évoluer, ce sont les statistiques. Et ça, c'est très intéressant. Et c'est les Danois et les Slovéniens qui sont à la tête de cette démarche. En Danemark, ils récoltent. On a eu une belle discussion. Moi, j'ai utilisé le mot « moissonnage ». Et Daniel a changé ça pour récolter. Mais ce matin, on a décidé que vendange, c'est plus approprié. Et donc, maintenant, c'est ça. Mais on récolte toutes les statistiques de circulation. Et on a tout ça dans le catalogue collectif. Et donc, et on peut savoir exactement dans tout le pays les livres qui sont les plus populaires. C'est très intéressant. Mais ce que moi je dis que il faut pas seulement concentrer sur la collection physique. Donc c'est il faut avoir la possibilité d'avoir les accès avec les choses électroniques en même temps. Donc, il faut regrouper toutes les statistiques des résolveurs avec toutes les statistiques des ILS et les regrouper. Mais c'est intéressant et c'est très important, je pense. Il y a aussi les services personnalisés et ce sont les Danois encore qui sont à la tête de ça. En WorldCat, au niveau mondial, on a les listes aussi. On a plus de 160 000 listes ont été ajoutées dans WorldCat.org. Ces listes peuvent être marquées privées ou peuvent être publiées. Et on peut diffuser des listes à partir de Facebook, qui est très intéressant aussi. Il y a la possibilité d'exporter les références bibliographiques vers RefWorks, vers EndNote ou simplement copier-coller. Et donc, c'est une petite liste. Moi, j'ai utilisé ça pour marquer les livres que j'ai achetés pour mes petits-enfants. Voilà. Il y a les liens vers les librairies. Il y a chaque mois plus de 100 millions de liens vers Amazon qui résultent en 4000 ventes. Et ce niveau de vente est assez important pour Amazon. Et donc, c'est mieux que le moyen. Il y a un service similaire, Libraries Australia fait la même chose. Donc, on propose à l'utilisateur soit d'aller direct et d'acheter, ou soit d'aller vers une bibliothèque. Il y a les interfaces modernes. Je pense que... Il y a l'affichage en grappe. On a un travail sur FRBR. Et moi, je suis en train d'un projet. On est en train toujours d'améliorer les algorithmes pour créer nos grappes à FRBR. Et donc, on a pas seulement FRBR en WildCat, mais on a fourni une table qui permet pour le catalogue collectif aux Pays-Bas d'utiliser des grappes en WildCat pour regrouper dans le catalogue collectif. Et donc, j'ai fait un petit exemple là. Donc, on a fait cette grappe sans aucun frappe. C'est juste par programme et table. Et il y a l'évolution de recherche entre les données. C'est data mining, c'est recherche des données.
Forage des données.
Forage. Ah, c'est bien. C'est un bon mot. Donc, forage. Oui, on a plusieurs projets de forage. Et on a fait le niveau d'audience, par exemple, qui est très intéressant, qui essaie d'évaluer le niveau d'un livre en regardant tous les exemplaires. Et s'il y en a 1000 exemplaires et ils sont tous pour les bibliothèques universitaires, donc on considère que c'est pour une audience assez élevée. Il y a aussi le comptage de nombre d'exemplaires qui donne beaucoup d'informations. Et c'est utilisé par exemple par les antiquaires pour regarder si une chose est rare ou pas et pour figer un prix. Il y a les facets, comme ici, de donner aux utilisateurs quelques pistes pour réduire un lot de résultats. Voilà. Et on n'a pas forage. Aussi, WildCat Identities, qui est assez nouveau, mais c'est très, très puissant. C'est tout fait avec forage. Donc, on a ici une page pour chaque auteur, pour chaque nombre de personnes qui existent dans nos 145 millions de notices. Donc, c'est une page, ici, c'est pour Régine Desforges. Elle a publié 156 œuvres en 466 publications en 25 langues avec 5304 exemplaires mondiaux. Et donc, c'est un petit graphe du laps du temps. Et on a les œuvres qui sont les œuvres sur Régine Desforges. Ce sont les langues ici. Et donc, il y a les œuvres par Régine, les œuvres qui sont les plus répandues. Et le niveau d'audience, les autres identités, et il y a les liens avec VIAF, Virtual International Authority File. Donc, c'est le lien vers la bibliothèque du Congrès, du Deutsche Nationalbibliothek et aussi de Wikipédia. Ici sont les petits nuages avec toutes les matières. Donc, on est en train de faire plusieurs pages similaires. On a fait une page par œuvre avec tout ce qu'on peut devenir à partir de nos données. VF, c'est autre chose. C'est une tentative de regrouper toutes les notices de noms de personnes, de notices d'autorité, et de ne pas faire une seule notice, ne pas coller toutes les notices, mais de faire des liens entre toutes les notices, et de pour qu'on puisse utiliser ces différences pour trouver la meilleure présentation pour l'utilisateur. Donc ici on a pour Zola, on a ça c'est d'Israël. Il y a deux différentes présentations, mais tout le monde est d'accord avec la forme d'Émile Zola. Mais c'est pas tout le cas pour tous les autres. Voilà. Comme ici, il y a Georg Lucas. Il y a une différence entre la forme espagnole, la forme allemande, la forme russe. Et donc, il y a, mais ici, Israël, République tchèque, Australie, États-Unis, Suède, la France, et je ne sais pas, Portugal, ils sont tous d'accord avec la même forme. Bon. Et sont tous nos partenaires en ce moment. C'est un service qui est fait géré par le bureau de recherche et c'est gratuit. Voilà. Un autre nouveau rôle pour le catalogue collectif, c'est de gérer beaucoup mieux les collections collectives. Et Loken Dempsey, qui est le chef du bureau de recherche chez OCLC, il a dit qu'il y a trois parties de la collection maintenant des bibliothèques. La partie physique, la partie numérique qui appartient à la bibliothèque et la partie numérique qui est seulement accessible par abonnement. Il y a un changement de focalisation, il y a vers le numérique puisque c'est ce que les utilisateurs veulent le plus. Et de création de bibliothèques numériques coopératives pour partager le travail de numérisation et préservation. Et donc, on peut avoir les partenaires n'importe où dans le monde avec le numérique. Donc, il n'y a pas de contraintes géographiques. Et on peut voir maintenant aussi qu'il y a les dépôts coopératifs. Et aux États-Unis, maintenant, 21% des dépôts sont collectifs. Et maintenant, la collaboration internationale est plus importante. On peut trouver une autre bibliothèque dans le monde avec le même profil et on peut agir ensemble. C'est beaucoup plus facile. Et c'est grâce à la croissance phénoménale de WorldCat depuis 2006 avec un changement de politique sur les chargements des notices et les consortiums avec d'envergure internationale avec plusieurs partenaires diffusés dans le monde. Et On a un nouveau service qui s'appelle analyse des collections. Il y a aussi la possibilité de coopérer avec les droits d'auteur, le compte d'exemplaires et tout ça. Et on peut récolter les données de circulation, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Sur les Danois et les Slovéniens, il y a la possibilité de récolter toute cette information au niveau mondial. Le service analyse des collections, ça donne une comparaison globale ou avec quelques bibliothèques spécifiques. Donc on peut analyser les collections par sujet, par classification, par format, et par tranche de date d'édition. Et c'est intéressant. Donc, on a une grille qui s'affiche et on peut cliquer là-dessus et on peut trouver enfin les titres spécifiques. Donc, c'est possible de trouver tout ce qui est rare dans votre collection, tout ce qui n'existe pas, ou dans le monde, ou dans une région, ou on peut voir combien est partagé ensemble. Et pour gérer les dépôts physiques, c'est un outil très intéressant. Et c'est sans un autre exemple en SwissBib. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un nouveau réseau en Suisse qui regroupe tous les réseaux des trois parties de la Suisse, puisque c'est divisé par long comme le Canada. Et le SwissBib est un catalogue collectif qui est fait par moissonnage, vendage. Et ça sera en production en janvier 2010. Et ce qui est intéressant, c'est ils placent beaucoup d'importance sur les données qui sont en provenance de l'utilisateur. Donc, ce sont les revues, les listes et tout ça. Et tout ça, c'est encodé par langue. Eux, ils ont trois langues en Suisse. Et c'est partagé avec WorldCat, self, s'il y a des restrictions exprès. Et ça fonctionne en deux directions. Donc, tous les revues de WorldCat passent vers SwissBib et tous les revues de SwissBib passent vers WorldCat. Et on fait la même chose avec NCC, c'est le catalogue collectif néerlandais. On fait la même chose là. Donc, on passe pour un autre nouveau rôle des catalogues collectifs, et c'est l'usage externe. Donc, ce n'est pas seulement maintenant les bibliothèques, les utilisateurs. Maintenant, c'est les partenaires, les institutions un peu égarées. On a parlé des moteurs de recherche, la récolte des données de WorldCat vers Google. Peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais Google a la possibilité de récolter toutes nos notices, mais il ne veut pas. Il récolte entre 3 et 4 millions de notices seulement, mais qui représentent la plupart des exemplaires. Donc, Google focalise sur ce qui est commun et pas sur ce qui est rare. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui est très, très important pour nous. Et Google Scholar fait la même chose dans une autre façon. Il récolte 67 millions de notices un peu plus au niveau d'œuvre et pas au niveau de la manifestation. Mais ils les récoltent, mais ils ont une idée, ce qui représente ce qui est intéressant pour les gens des les étudiants. Et c'est Google qui décide. Il élimine tout ce qui ne correspond pas avec leur idée de le corpus pour l'étudiant. Et donc, il y a aussi le lien dans notre sens de Google Books vers WorldCat, où il y a 100% de correspondance. Mais nous sommes toujours en train de parler avec Google. Il faut avoir une certaine puissance de parler avec Google, un certain pouvoir. Voilà. Et donc, autre site peut décharger une petite boîte qui est libre, c'est libre accès sur notre site web. Et il peut décharger ça vers la page web. Et donc, en 14 mois seulement, 3500 sites ont téléchargé la boîte de recherche de WorldCat. Et maintenant, c'est intéressant, ça représente 5% des transactions externes qui ont accès à WorldCat. Il y a les blogs, les nouveaux sites, il y a Facebook. Et je vous donne seulement un exemple de ça que j'ai demandé de regarder, c'est qui nous regarde. Et ce site Mystique Bourgeoisie. Et regarde le chiffre, 3234 transactions en un seul mois. Donc, c'est formidable. Donc, c'est ça le pouvoir d'exposition. On a les autres partenaires là. On a le partenaire avec les éditeurs qui nous fournissent les données en format Onyx et on transforme, on mouline vers Mach 21 et on décharge sur WorldCat pour le catalogage, pour éviter la frappe redondante de tout ce qui est déjà fait par les éditeurs eux-mêmes. Et on a aussi un service qui s'appelle WorldCat Sélection. C'est au lieu de chaque fournisseur de livres vers les bibliothèques qui ont les notices pour les suggestions pour l'acquisition, au lieu de charger tout ça vers chaque système individuel des bibliothèques, on charge une seule fois dans notre site central et on fait les demandes à partir de là, les commandes. On a aussi les partenaires avec les encyclopédies qui sont intéressants dans les listes et liens. Et c'est pas leur problème, c'est pas mon problème, mais j'imagine que face à Wikipédia, ils ont du mal à rester pertinents. Il y a des librairies anciennes, les antiquaires, qui sont intéressés, comme j'ai dit tout à l'heure, pour faire un prix, pour l'évaluation des biens, analyse de leur collection et également de nous fournir les contributions, les données enrichies, pardon, je n'ose pas. Et on a aussi les liaisons avec les musées et les archives. On fait les collections numériques collaboratives, comme en Australie, et un projet similaire au CLC. Et on a aussi le système Archives Grid, qui est géré par ce qui était RLG. Aussi, plus personnel de plus, on a les dépôts numériques. Et le DAI, c'est très intéressant. C'est la loi aux Pays-Bas que tous les chercheurs dans les universités qui sont sur les projets qui ont un budget qui vient du gouvernement, qu'ils enregistrent un petit fichier avec un identifiant qui s'appelle le DAI et où dans le catalogue collectif du Pays-Bas. Donc c'est comme une notice d'autorité et ça se trouve dans le catalogue collectif. Et ça, c'est une piste très importante pour l'avenir, pour les autres. Je pense que c'est un modèle. Et on a aussi les partenaires avec les services de résumé et d'indexation. Et ils passent par le registre des institutions où se trouve le resolver et tout ça. Il passe directement là vers le ressource pour l'affichage des ressources numérisées. Sans passer par WorldCat, c'est pas obligatoire. Et je peux vous donner une présentation toute complète des identifiants. Mais ce que je veux dire simplement aujourd'hui, c'est la clé pour la navigation entre les sites sur le web. C'est très, très important. Et c'est pour l'accès direct et l'accès avec précision. Ce sont beaucoup de choses qui ne sont pas pertinentes. Ce sont les identifiants qui regroupent toutes les niveaux global, mondial, régional et local, et qui regroupent tout ça avec tous les autres sites dans le web. Les nouveaux rôles. Les données partagées et les processus partagés. Donc, on peut partager plus. Et de plus on peut partager, plus on a les économies d'échelle et plus on a les nouvelles possibilités, les nouvelles possibilités. Et comme nous créons les collections collectives, nous pouvons aussi partager le processus d'acquisition. Il faut maintenant commencer à repenser ce qu'on fait au sein de la bibliothèque et ce qu'on peut faire mieux si on partage. Donc, ce sont les critères que j'ai pensé qu'il est important de demander. Donc, si j'ai besoin d'exposer ces données, c'est mieux partager. Si je peux éviter la gestion redondante, par exemple, il y a dans tous les systèmes des bibliothèques, il y a un fichier du fournisseur. Pourquoi? Un seul suffit. Il y a un fichier des suggestions des fournisseurs, comme on a dit, with the WorldCat Selection, notre service. Il y a tous les liens qu'on fait, il y a les liens ici, les liens ici. Donc, si on peut partager ces liens, c'est beaucoup moins de travail et c'est beaucoup plus on peut avoir. Il y a la création des informations collectives par la simplification ou par l'amélioration d'un processus. Et ce qui, pour moi, est très évident, c'est la prévision des numéros de publication en série. Pourquoi on a des algorithmes très complexes, on a des données, et chaque bibliothèque font la même chose. Hein. Mais si en Australie, je peux savoir que Stanford University a reçu un fascicule, c'est ce qu'il faut savoir. Donc, si je peux regarder tout ce qui a été tout ce qui a été reçu dans une bibliothèque n'importe où dans le monde au niveau fascicule, ça sera une simplification beaucoup plus fiable et beaucoup plus facile. Donc, peut-être s'il y a la création de nouvelles informations, comme d'exemplaires, par exemple, statistiques sur les délais de livraison, on peut partager ça. Donc, on peut savoir que pour cette fournisseur, ça, c'est toujours 3 mois, mais pour l'autre, c'est 2. Et on a aussi le droit d'auteur, donc ça, c'est aussi quelque chose qui c'est beaucoup mieux de faire ensemble. Et aussi, s'il y a besoin de comparaison, comme WorldCat Selection. Donc, j'ai un métaphore ici. Ce sont les photos de Light, où j'habite aux Pays-Bas. C'est le siège d'OCLC là-bas. Ici, c'est le chapitre des bateaux. C'est le bâtiment, c'est un des trésors du Pays-Bas. Et c'est classé comme ça. Donc, c'est d'importance globale. Non, je me suis trompée. Ça, c'est plus intéressant de ça. Ça, c'est le siège du plus ancienne association coopérative du monde. Et c'est l'association qui a été créée pour drainer le paysage, toute la terre qui ont fait le Pays-Bas. Parce que le Pays-Bas, c'est sous-marin. Moi, j'ai vu, c'est vrai. Moi, j'ai le GPS qui, on était en train d'une promenade. Hein, ils ont dit qu'on était comme ça. Ce niveau de la mer, c'est là. Et donc, ma maison, le premier étage est sous mer. Donc, cette association a été créée dans les années. Dans le 5e siècle. Et c'est la même association dans le même bâtiment à Light qui existe toujours. Donc c'est un trésor pour le monde. C'est formidable. Tandis qu'ici, il y a beaucoup de bâtiments qui sont comme ça aux Pays-Bas. Et d'importance, est-ce moyen? Mais pour le paysage, c'est complètement important de préserver tout. Donc, c'est ça la différence entre global et régional. Et j'ai essayé de... C'est une tentative, c'est pas la loi, mais je pense qu'au niveau mondial, la fonction, c'est l'exposition. et gestion des liens et de conserver les ressources très rares et la fourniture électronique. Je propose ça comme le rôle mondial, le rôle principal. Tandis qu'au niveau régional, on a tout ce qui est gestion de la collection et de service, de fourniture, de faire l'architecture globale, de faire une partie de l'architecture globale pour les services de fourniture. Et je pense que la fourniture physique, c'est plutôt au niveau régional. Et de faire et de ramasser tout ce qu'il faut faire et de partager tout ce qu'il peut faire. Je vous donne, ça c'est une autre jolie image de Leyde. C'est intéressant, c'est comme Amsterdam, mais sans les touristes, c'est fantastique. Voilà. Et donc, on peut regarder aussi localisation optimale de données. Et il faut vous dire que j'ai utilisé ce drapeau puisque j'aime beaucoup le drapeau. Et je n'ai pas rajouté exprès pour cette présentation. Donc, au niveau mondial, on a les métadonnées bibliographiques, les exemplaires, les fournisseurs, les statistiques, les données sur les questions-réponses pour référence. On peut regrouper tout ça avec tout le monde. Et régional, on a les décisions quant à la sélection et au rejet pour la collection. Moi, j'ai eu le désherbage, mais c'est élagage, c'est ça? C'est pas un mot, c'est le premier jour que j'ai vu ce mot. Et l'information sur les utilisateurs. Et local, on a tout ce qui est budget, facture, informations privées sur les utilisateurs et tout ce qui est dynamique, tout ce qui change tout le temps, comme le statut des exemplaires. Et je passe maintenant sur les différents modèles, puisqu'il n'y a pas une seule façon à agir. On a pour la découverte. On a, par exemple, le nouveau catalogue expérimental, c'est expérimental, de Crépuc, qui est un catalogue, c'est une vue sur WildCat. Donc, vous n'avez rien fait, mais vous avez un catalogue régional. Oui, c'est simplement comme ça, oui. Mais pour la découverte. Donc, on a un catalogue collectif qui est un survol de WildCat. Il y a toujours un problème puisque si WildCat ne contient absolument tous, il faut que WildCat dans le vue régional peut aller accéder par protocole pour les données qui ne se trouvent pas dans WildCat afin de combiner les deux lots de résultats. On a les catalogues collectifs qui sont physiques et qui sont créés par récolte. Il y en a le SwissBib, Unity UK, par exemple. Ça, c'est notre réseau des bibliothèques municipales en Angleterre. Il y a les catalogues collectifs qui sont créés dans la même façon de WildCat. Ils sont créés directement par les utilisateurs. On a le SUDOC, le réseau des bibliothèques universitaires de France. Et ça, c'est le réseau PayPal. Et on a un mélange de méthodes, comme la Business Australia, il y a quelqu'un qui frappe directement, quelqu'un qui charge la notice. Et le catalogue collectif peut avoir les services, pas les services API, on s'appelle la section la grille, le grid, je ne sais pas, c'est très difficile à traduire ça, puisque c'est une métaphore, je pense que ne traduit pas en français. Mais on a les services qui sont derrière le système de catalogage connexion, mais qui sont accessibles par les autres systèmes de classification, d'extraction de métadonnées à partir des PDF et des pages HTML, par exemple. Et il y a aussi accès avec à SRU et Z3.50 pour copier les notices de catalogage. Je pense que je vais passer là. Cet exemple, ça c'est l'exemple de SwissBib où c'est tout récolté. Et regrouper ensemble. Et ce sont les services, comme le petit service pour faire le FRBR. Il y a le lien avec WorldCat. Il y a le lien vers les autres produits. Et ça, c'est l'exemple. Ici, c'est le GBB, c'est le plus grand réseau en Allemagne. Il n'y a pas une seule réseau là-bas, il y en a 7, je pense. Mais le GBB, c'est Node Allemagne, c'est notre plus grand réseau. Mais ce modèle, c'est partagé par ABS et le SUDOC. Hein. Et donc, ici, il y a le protocole de mise à jour WorldCat en plein temps. Il y a un protocole de recherche pour accès au service grid. Il y a aussi un autre protocole qui s'appelle OpenURL RTM Request Transfer Message. Et c'est pour les utilisateurs de WorldCat, ils peuvent passer une demande. S'ils trouvent quelque chose qui n'est pas dans votre système, mais c'est vous qui vont faire la fourniture. Donc, il faut que la demande est placée dans le service qui va servir l'utilisateur. Donc, on a ce nouveau nom pour aller de WorldCat à vers les services pré-interbibliothèque régionale. Et ça, c'est lié avec dans le cas d'Allemagne, avec un système très, très puissant en Allemagne, un système national. Il y a aussi le protocole SRU qui va directement vers de WorldCat vers le catalogue. Et le service PIB, c'est aussi, il y a la possibilité de passer vers le service de WorldCat Resource Sharing. Je parle juste un peu de SRU Record Update. Je pense que ça, c'est très, très important. Ça permet pas un protocole qui est c'est pas un récolte, c'est un push. C'est un pousse, un protocole qui pousse. Et c'est important, une fois que quelque chose est mis à jour dans le catalogue collectif, c'est donné directement dans WildCat. Et dans l'autre sens, dans cette flèche verte, l'identifiant de WildCat est redonné vers le catalogue collectif. Et maintenant, c'est plus de 18 mois que ça a marché. Et on a passé plus de 2 000 000 de notices et 2 millions d'exemplaires en utilisant ce protocole. Donc, c'est environ 5 secondes que WildCat est mis à jour. Et en conclusion, qu'est-ce que j'ai fait comme Janine? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est notre style. les catalogues collectifs jouent un rôle très, très central. Les bibliothèques se fient aux catalogues collectifs pour bâtir des collections collectives pour plus riches et obtenir des économies d'échelle pour le service et visibilité. Et le potentiel pour le partage de plus de données, plus de services est évident. Et donc, en conséquence, on a besoin de nouvelles normes. Mais on reste beaucoup à faire. Et je termine avec cette petite photo. C'est une photo personnelle de tout près de chez moi en France. Et ça, c'est l'aiguille de midi, là. Voilà.
Merci beaucoup. Nous avons deux présentations ce matin. Nous prenons les questions maintenant pour cette présentation. Laval, avez-vous des questions?
Est-ce que vous avez des questions? avons-nous des questions pour le moment? Oui, Guy?
Oui, concernant le partage des données entre services bibliographiques, il y a eu une annonce il y a déjà quelques mois d'une collaboration avec la Bibliothèque nationale de France et WorldCat. J'aimerais savoir si vous avez un échéancier quant à la mise en œuvre de ce partage.
En effet, c'est notre siège aux Pays-Bas qui a une compétence avec les moulinettes, les conversions. Et ils sont en train de convertir les données qui sont en format ANSEMARC, c'est un format ancien GIAC, je pense. Et donc, on pense que d'ici 2 mois, on peut commencer à avoir les notices de la Bibliothèque nationale dans WildCat. Maintenant, on a toutes les notices de nom d'autorité qui se trouvent en VIAF, hein, qui sont accessibles par le service VIAF.org. Et la deuxième présentation, je vais parler un peu des notices parallèles que je pense que ça vous intéresse. La deuxième présentation, c'est sur tout ce qui s'agit de multilingue. Est-ce que j'ai beaucoup compris la question.
Oui, tout à fait, merci. Merci.
Il n'y a pas autre chose à
parler? Aussi, on a signé avec ABES le chargement des données d'ABES aussi. Puisque il a fallu d'abord avoir
le droit de charger les notices de la BNF avant de charger les notices de d'ABES qui utilise la plupart des notices de BNF.
Merci.
Il n'y a pas d'autres questions pour le moment? Non, pas pour le moment, non.
Vous pensez.
Oui. À Montréal.
Vous avez parlé de la possibilité.
Le micro.
Yes. You must use the microphone, so just.
Vous avez parlé. Ça marche? Ça va? Vous avez parlé de la possibilité d'avoir un catalogue collectif régional à l'intérieur de WorldCat? Et je me demandais un peu, c'était quoi l'intérêt de faire ça? Plutôt que d'avoir.
Je n'ai pas entendu, je suis désolée.
Vous avez parlé? Est-ce que vous m'entendez maintenant?
You have to speak louder in the room. The microphone is just for the webcast.
Oh, voilà.
Vous avez parlé de la possibilité d'avoir un catalogue collectif régional à l'intérieur de WorldCat. Mm-hmm. Et je me demandais, c'est quoi l'intérêt d'avoir un catalogue régional à l'intérieur de WorldCat plutôt que d'avoir nos notices contribuer directement dans WorldCat et avoir comme partenaire potentiellement toute la planète?
Ah oui, c'est une bonne question. c'est pas pour moi de faire le choix. Par exemple, en Australie, ils sont anglophones, ils utilisent Mac 21, il n'y a pas de contrainte technique de ne pas complètement partager avec WorldCat. Mais ce n'était jamais pensé d'abandonner le catalogue collectif qui existe depuis belle lurette. Et eux, ils ont beaucoup de volonté de faire beaucoup de développement eux-mêmes. Donc, c'est aussi le cas avec les Allemands. Ils veulent avoir leur propre système. Nous avons les catalogues, par exemple, il y a un catalogue en Angleterre qui s'appelle SILA. Et SILA est un catalogue pour les langues, plus qu'il y en a plusieurs, indiennes. Et s'il a été sur WorldCat. Mais le problème, c'était que la translittération qui est utilisée aux États-Unis ne correspond absolument pas avec la translittération en Angleterre. Il y a beaucoup plus d'Indiens en Angleterre qu'il y a aux États-Unis. Donc, tous les signes, les personnes ne comprennent pas la translittération. Donc, ils ont retiré le notice, ils ont remonté le notice dans CBS, le système néerlandais, et ils ont géré un catalogue collectif là. C'est plus cher de gérer un catalogue collectif eux-mêmes. Mais il y a les raisons historiques, les raisons politiques, il y a les raisons budgétaires. Donc, il y a un tas de raisons. Et c'est pas à moi de faire le choix. Et moi, je représente la façade régionale. Donc,
Jennifer, je voudrais ajouter quelques points.
Oui.
Peut-être un exemple facile ici en Amérique du Nord est de voir des États aux États-Unis où ça s'est produit souvent. Ici au Canada, on ne l'a pas fait nécessairement au niveau provincial, mais aux États-Unis, avec WorldCat, on a eu des groupes qui ont voulu utiliser WorldCat pour créer un sous-ensemble afin de s'assurer que leur usagers voient d'abord ce qui est disponible localement avant d'aller voir ce qu'il y a dans le monde. Le commentaire est excellent parce que c'est déjà dans World 4, pourquoi faire un niveau supplémentaire? Le niveau supplémentaire fait simplement simplifier la vie des usagers parce que nous, on fait l'affichage par région. Alors, on peut, je pense à l'État de l'Illinois, où ce qu'on a fait, c'est qu'il y a des sous-groupes par type de bibliothèque, d'abord. Ils peuvent chercher juste pour les bibliothèques publiques de l'Illinois, ensuite le milieu académique, s'ils le veulent, ensuite tout l'État, et ensuite WorldCat. Alors, ils ont à peu près 20 niveaux différents qu'ils ont pensé. Alors, nous, on peut vraiment diviser les niveaux dans le but de simplifier la vie de l'usager. Mais c'est vrai, toutes les notices sont là, ils peuvent chercher l'ensemble et se foutent de ce qu'il y a localement, mais eux, leur objectif, c'est d'amener le trafic localement entre leurs bibliothèques, parce qu'ils ont une carte qui permet le prêt en bibliothèque dans tout l'État, sans restriction, que ce soit public ou académique, pour faciliter cet échange-là localement, avant d'aller faire des demandes dans d'autres États ou dans d'autres pays. Alors, puisque ces bibliothèques-là avaient déjà leur contenu dans WorldCat, pour eux, c'était beaucoup plus simple d'utiliser la plateforme qu'on fournit versus acheter un autre serveur pour gérer un catalogue collectif séparément pour tout l'État. Les informations étaient déjà là et nous, on peut faire ces sous-ensembles-là. Et là, je vais faire un lien à ce que vous avez vu dans la présentation de Jennifer, le catalogue collectif de la CREPUC. C'est pas fictif. J'ai jasé avec un de mes collègues la semaine dernière qui m'a dit, vous avez cette présentation-là, savais-tu qu'on peut te mettre ça sur pied assez rapidement si les données sont dans WorldCat? Et je dis, OK, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris 6 bibliothèques du groupe. Et dans 2 jours, on a réussi à monter un catalogue collectif avec les données qui sont dans WorldCat de ces 6 bibliothèques-là. Alors, si vous faites crepuc.worldcat.org, allez vous amuser avec ça. Vous allez être, je pense, surpris des résultats que vous allez voir. On a créé un sous-ensemble crepuc et ensuite le tout WorldCat. On n'a pas simplifié ça par région ou quoi que ce soit, mais ça, c'est des choses qui sont possibles.
Mais quand même, dans WorldCat, on voit bien, même si on n'est pas un catalogue collectif, si on cherche et que notre bibliothèque et notre catalogue est versé dans WorldCat, comme le catalogue des autres bibliothèques universitaires au Québec, on va quand même, ça va être, WorldCat va nous indiquer la bibliothèque la plus proche qui a le document qu'on cherche. De toute façon, sans même avoir un catalogue collectif CREPUC, ils vont nous dire, je sais pas, la plus proche, c'est à McGill, ou c'est à, pour l'UQAM, par exemple, c'est à McGill, ou c'est à Polytechnique. C'est déjà là.
Oui, si l'usager a compris la ville ou le code postal.
Je ne sais pas si j'ai bien compris, mais si le développement du catalogue se fait directement dans WorldCat, est-ce que la même façon de faire une recherche régionale, locale, bibliothèque ou bibliothèque collective est possible?
Oui, il y a... je pense que ça marche chez mon personnel. Il y a la possibilité de commencer à... avec seulement le catalogue collectif ou de passer vers la vue mondiale. Et on peut aussi accéder directement vers les autres catalogues de la région.
Donc, c'est la même question qui revient. Si les mêmes résultats sont dans les deux développements locaux ou directement en WorldCat, quelle est exactement la différence entre les deux?
C'est la simplification d'utilisation pour l'usager.
Quelle est la simplification?
L'usager peut choisir lui-même dans quel groupement il veut d'abord identifier ses résultats.
Oui.
Parce que s'il entre sa ville, peut-être qu'ici c'est moins pertinent parce qu'il y a moins de bibliothèques publiques qui sont membres, il y a moins de collèges qui sont membres, il y a moins d'écoles qui sont membres. Mais quand on pense à tout ce beau monde-là dans un État qui ont embarqué tout le monde sur WorldCat, ça devient peut-être un peu embêtant de savoir que la localisation est au bas de l'État ou dans un autre État avant de voir la mienne. Surtout si je mets l'Illinois comme l'exemple que je donnais, on va tout voir et non pas ma bibliothèque. Tandis que si on crée le répertoire les sous-ensembles, les catalogues collectifs, on peut les faire ces distinctions-là pour d'abord afficher ce qu'il y a dans ces bibliothèques-là du répertoire ou du catalogue collectif. C'est la seule distinction, le seul avantage pour l'usager.
Ma question n'était pas tant du point de vue de la recherche, mais du point de vue du développement du catalogue au niveau local ou au niveau de WorldCat. Est-ce qu'il y a une distinction entre les bibliothèques qui se réunissent pour développer leur propre catalogue régional et le transfert après dans WorldCat, ou ils développent le catalogue directement dans WorldCat? C'était ça, plutôt ma question.
On utilise la même donnée.
Les mêmes données.
Il y a une contribution une seule fois et c'est nous qui faisons la ségrégation, si on veut, de la donnée.
Okay. Merci beaucoup.
J'ai une question ici à Québec. Est-ce que vous m'entendez ou est-ce que vous avez d'autres questions à Montréal? Oui, vous m'entendez? On parle beaucoup de l'organisation d'un point de vue de bibliothèque, mais qu'est-ce qu'il en est de l'usager quand il utilise, je pense que la réponse de Daniel est intéressante à ce niveau-là, l'usager veut savoir, lui, le plus proche possible de chez lui quand les corpus sont grands, mais au-delà de ça, comment l'usager utilise, lui, WorldCat et qu'est-ce que l'usager attend de WorldCat et comment cet outil-là vient mieux répondre aux besoins des usagers sur le net que nos catalogues un peu séparés. Alors, je pense qu'est-ce que OCLC a fait des recherches plus fines au-delà de dire qu'il y a 4% qui utilisent des catalogues, 2% et 85% le web? Comment les usagers trouvent leur compte aujourd'hui avec ce nouvel outil-là? Est-ce que vous avez des réponses là-dessus? Est-ce qu'il y a eu des recherches chez vous de fait là-dessus? Est-ce que j'ai parlé trop vite,
Jane? Non, mais j'ai pas complètement compris la question. Les utilisateurs, c'est pour vous de faire la publicité pour qu'ils puissent avoir le URL direct et le catalogue collectif.
Je vais changer ma question. Notre discussion est une approche produit. Si on change notre approche et on a une approche usagée, comment on parlerait de WorldCat en prenant une approche usagée? Là, on a une approche produit. On dit on a un catalogue, on essaie de le rendre le plus adapté possible. Mais si on revient en amont, est-ce que cet outil-là répond vraiment aux besoins des usagers ou s'il essaye plus de répondre aux besoins des bibliothèques?
Ah, c'est ça. On fait beaucoup de tests avec les usagers directs et on a commencé avec les pistes assez banales, mais maintenant on a un système qui gère le contact des yeux. Avec l'écran, on peut détecter ce qu'il regarde sur l'écran et ce qu'il fait qui est important. Donc, on fait beaucoup de choses sur la usabilité des systèmes et on utilise les étudiants de la université et tout ça. Donc, on prend compte que il y a beaucoup de choses que les bibliothécaires pensent que les utilisateurs veulent, mais que peut-être il n'y a pas de correspondance. Pour nous, c'est l'usager. Il faut vraiment avoir les vrais usagers pour nos tests. Et on fait beaucoup de recherches tout le temps. Il y a un petit boîte qui apparaît que je trouve très embêtant, qui demande un peu trop de questions. Donc, on peut dire ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Et si on utilise WorldCat.org, c'est évident, c'est toutes les 10 fois peut-être. Moi, je dis non, je ne veux pas, je ne réponds pas. Puisque je suis une bibliothécaire, donc peut-être c'est pas moi qui veut que je remplisse. Donc, on a tout ça. Et on a les rapports, comme le rapport en 2005 que j'ai montré. On fait un rapport comme ça tous les ans.
On a une question complémentaire ici, Guy.
Je voudrais savoir le test qui est accessible présentement, WorldCat Crépuc. Va être disponible combien de temps? Puis je voudrais savoir aussi l'interface régionale, jusqu'à quel point c'est paramétrable par la région. Par exemple, l'intégration de cette interface avec le service de PEB. Je sais qu'au CLC offre un service de PEB, mais est-ce qu'on peut mettre un autre service en lien avec l'interface régionale?
On est en train, comme j'ai dit tout à l'heure, de faire le nom OpenURL RTM. Et c'est pour c'est avec OpenURL, c'est un protocole qui est très simple. C'est simplement, j'ai trouvé ça, voilà, vous pouvez avoir, je veux plus, pas de réponse, pas de rien. Donc c'est très facile, dedans le protocole, il y a tout ce qui est de la notice et tout ce qui est savoir de l'utilisateur lui-même. Donc, c'est peut-être simplement une adresse URL qui implique, qui fait partie de ce réseau et ce service.
Ajouter, Guy, il y a actuellement, puis ça va répondre un petit peu aussi, ou ajouter à la réponse pour la question de Sylvie auparavant.
Tout ce qu'on développe au niveau des études avec les usagers, ça devient transparent dans le sens que c'est disponible sur worldcat.org et WorldCat local, qui est l'application locale. Et mon lien avec la question maintenant, c'est que on a des installations de WorldCat local dans l'est du Canada, qui utilise un logiciel de PEB qui s'appelle Relais, et aussi en Alberta, qui utilise Relais, qui est un logiciel de PEB qui n'est pas d'OCLC, et on fait le lien pour s'assurer la circulation, que le transfert des informations, des demandes soit fait. Alors, au niveau de la circulation, c'est possible, et au niveau de la gestion du PEB, à partir d'un autre système aussi, c'est possible, et c'est en train de se faire ici.
Et la disponibilité du site démo, c'est pour combien de temps?
Ah ouais. Ça peut être là aussi longtemps que vous le désirez. On a fait ça un peu pour s'amuser, puis ça ne cause pas de problème à personne.
Oui, peut-être juste une validation. Est-ce que Crépuc peut être utilisé comme ça? Est-ce que nos recteurs auraient des réticences à ce que le libellé Crépuc apparaisse sur WorldCat de cette manière-là?
Je vais vérifier.
C'est une excellente question. Je vais vérifier et je communiquerai la réponse rapidement à Daniel et à toi, Sylvie.
Autre question?
Puisque Jennifer a mentionné les tests d'utilisabilité, je voudrais dire qu'ici à McGill, on a fait un très petit test d'utilisabilité assez informel et on n'a pas utilisé le logiciel pour détecter les mouvements des yeux, mais c'est très convaincant que notre catalogue n'est pas bien compris par les usagers et c'était une des raisons pour laquelle nous avons commencé avec WorldCat Local.
Beta catalog, which is WorldCat Local, I would suggest you do so just to get a feel for the differences that you see. And so you can search still on our, what we call the classic catalog, the Ex Libris search interface, and if you search the same thing on WorldCat Local, it really is quite interesting to see the differences.
Une autre question?
Je voulais juste revenir sur la question de Claire à propos de la différence entre les réseaux qui décideraient de se constituer un catalogue collectif propre à eux et ceux qui voudraient plutôt utiliser WorldCat. Est-ce que je me trompe en disant que un des avantages ou des inconvénients des deux méthodes, c'est que un catalogue, les institutions qui voudraient utiliser WorldCat, évidemment, seraient liées par les normes édictées par WorldCat, ce qui peut être un avantage, parce qu'on n'a pas nécessairement à réinventer toutes les normes de catalogage et de collectif, mais ça pourrait être aussi vu comme un inconvénient pour certains groupements, et donc peut-être que certains de ces groupements-là pourraient préférer établir leurs propres normes dans un catalogue collectif séparé.
Est-ce que tout le monde a entendu cette question?
Non.
Ce que je disais, c'est pour revenir sur la question de Claire, sur les avantages. Les avantages ou les inconvénients d'avoir un catalogue collectif séparé plutôt que dans WorldCat. Je demandais est-ce que j'ai tort de penser que les normes de catalogage ou les normes d'utilisation de ces catalogues collectifs-là peuvent être un inconvénient ou un avantage. Si on adhère à WorldCat, il faut évidemment adhérer aux normes édictées par WorldCat, ce qui peut être vu comme un avantage, alors que si on les trouve plutôt contraignantes, évidemment, avoir un catalogue collectif séparé peut être une solution plus avantageuse.
Oui, c'est très intéressant, la question des différentes normes de catalogage. C'est vrai, si on a un catalogue collectif, on peut avoir vos propres normes, vos normes nationales et tout ça. Mais c'est intéressant que les Néerlandais qui ont le nom, ils ont leur classification, le système de vedette matière. Ils sont en train de poser des questions. Est-ce que c'est vraiment maintenant une bonne dépense d'efforts? Et ils veulent peut-être supprimer le système de classification en changeant pour durée, et le catalogage, peut-être ils sont en train de questionner tout ça. La même chose avec la BLF, qui d'abord ils ont abandonné Antemark. Il y avait beaucoup de peine avec certains gens à la Bibliothèque nationale de France. Et maintenant, il y a les normes de catalogage qui ne sont pas les normes de AACR2. Et donc, et maintenant, on a le RDA, et peut-être tout le monde va jeter tout et changer pour le RDA. Et moi, je ne suis pas... Je ne sais pas tous là-dessus au niveau de RDA. Donc, c'est un avantage. On peut avoir vos propres règles et vos propres pratiques. Vous pouvez toujours les charger sur WorldCat comme notice parallèle. Et donc, c'est possible. Et peut-être il y a un autre modèle. On peut avoir avec son connexion fait les normes de WorldCat, les normes standards, mais on peut avoir un autre système de catalogage et lié avec SRU Record Update. Ça, c'est possible. Il n'y a pas de... avec SRU Record Update, maintenant, ce sont les collectifs, catalogues collectifs qui sont liés. Mais peut-être que c'est possible pour un autre.
Nous prenons une pause maintenant et nous commençons
en 50 minutes, 15 minute break.
Cans.
Cans. Cans. Not 50. No.
Not 500.
500, maybe, no. This minute. 10 minutes.
Cans.
Well, maybe 10. 10 minute break. Notre collègue de BNQ sont ici. Bienvenue. I didn't mention you before. Je suis désolée. 10 minute break. And then we have the second presentation. Thank you.